Radio Prague, les informations.
La République tchèque favorable à la suppression de l'obligation de visa pour les ressortissants de Moldavie. La Tchéquie critique la condamnation d'un des leaders de l'opposition en Biélorussie. Vladimir Hoesel sera directeur de la Galerie nationale. La République tchèque est favorable à la suppression de l'obligation de visa pour les ressortissants de Moldavie. Le régime de visa entre les deux pays pourrait être facilité dans un court délai. Une déclaration du chef de la diplomatie tchèque Karl Schwarzenberg à l'issue de sa rencontre avec son homologue moldave Yuri Lehanka. Selon le ministre tchèque des Affaires étrangères, avant la suppression de l'obligation de visa, la République de Moldavie sera obligée cependant encore de remplir les conditions techniques indispensables. La Tchéquie critique la condamnation d'Andrei Sannikava, un des leaders de l'opposition en Biélorussie. Ce dernier a été condamné samedi à Minsk à 5 ans de prison pour avoir participé à une manifestation. Selon le ministre tchèque des Affaires étrangères Karel Schwarzenberg, cela nuit aux ambitions de la Biélorussie de se rapprocher de l'Union européenne. À son avis, ce sont les habitants de Biélorussie qui payeront les frais de telles décisions. Le ministre de la Culture Jiří Becerra a annoncé le nom du successeur de Milan Knížák au poste de directeur de la Galerie nationale. Il a nommé l'économiste Vladimír Hoesel, qui lui avait été déjà recommandé par une commission de spécialistes. Vladimír Hoesel est fondateur, sociétaire et représentant de la société d'investissement Lombard Advisory Partners. Il a déjà travaillé dans la Galerie nationale et aussi dans le musée Guggenheim de New York. Selon le directeur sortant de la Galerie nationale, Milan Knížák, le fait qu'il ne s'agit pas d'un spécialiste des arts plastiques est un désavantage, car le nouveau directeur sera obligé de baser ses décisions sur les opinions de ses subordonnés. Selon un sondage de l'agence STEM, si les élections législatives avaient lieu maintenant en République tchèque, l'opposition obtiendrait la majorité constitutionnelle dans la Chambre des députés. D'après le sondage, le Parti social-démocrate obtiendrait 94 sièges et le Parti communiste 32 sièges, ce qui leur permettrait d'adopter des amendements de la Constitution. À partir de ce lundi, le ministre tchèque de la Santé, Leo Heger, top 09, visitera successivement 5 hôpitaux publics. Au cours de ses visites, il discutera avec leurs directeurs et employés du projet de réforme de la santé publique. Météo. Ce lundi, jour de la fête des Přemysl en République tchèque, le ciel est nuageux avec percée de soleil. Les températures restent fraîches, elles varient entre 13 et 17 degrés. Mardi, le ciel en République tchèque sera nuageux avec quelques passages pluvieux et les températures diurnes se situeront entre 16 et 20 degrés pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter et je vous laisse en compagnie de Magdalena Hrozinková.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce programme d'actualité de Radio Prague. L'Ukraine a expulsé deux diplomates tchèques qui les soupçonnent d'espionnage. C'est le premier sujet que nous allons traiter. Nous vous inviterons ensuite à Brno, en Moravie, où se tient une exposition de photographie de Václav Richter, un artiste aux talents multiples, mort à 28 ans. Son œuvre connaît un engouement ces dernières années. Dans le volet sportif, il sera évidemment question de hockey sur glace. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a annoncé l'expulsion vendredi 13 mai de deux diplomates tchèques. Ils sont accusés d'avoir exercé des activités non conformes à leur statut de diplomate. En d'autres termes, on les soupçonne d'être impliqués dans une affaire d'espionnage. Chef d'accusation que rejette catégoriquement le ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, pour qui il s'agit d'une réponse à la décision des autorités tchèques d'accorder l'asile politique à l'ex-ministre de l'économie ukrainien, Bohdan Danilichin, qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par Kiev, Pierre Maignan.
Selon le service de sécurité ukrainien, les deux diplomates, le colonel Zdeněk Kubiček et le commandant Petra Novotna, respectivement attachés de défense et attachés militaires de l'ambassade de République tchèque en Ukraine, collectaient des informations à caractère militaire et technique sous couvert de leur statut diplomatique. désignés persona non grata, ils étaient depuis vendredi détenus à Kiev sans savoir ce qu'il pourrait advenir de leur sort avant finalement d'être reconduits en République tchèque ce lundi. Les données en question concerneraient des équipements aérospatiaux conçus par les spécialistes ukrainiens pour la Russie. Marina Ostapenko, la porte-parole du service de sécurité ukrainien, a précisé que les informations secrètes auraient été transmises aux deux diplomates par l'intermédiaire d'un employé d'une usine d'aviation et d'une fonctionnaire du ministère ukrainien de la Défense, recrutée il y a plusieurs années. L'Ukraine a par ailleurs rendu publique une vidéo de quelques minutes sur YouTube, laquelle serait censée montrer les deux diplomates en train de recueillir du renseignement confidentiel. L'ambassade de République tchèque en Ukraine et le palais Tchernin, siège de la diplomatie tchèque, communiquent peu sur l'affaire, mais indiquent que la décision des autorités ukrainiennes ne restera pas sans suite. Deux employés ukrainiens à l'ambassade d'Ukraine en République tchèque pourraient ainsi être amenés à quitter le territoire tchèque. Les relations entre la République tchèque et l'Ukraine sont tendues depuis le début de l'année. En effet, en janvier dernier, les Tchèques avaient décidé d'accorder l'asile politique à Bogdan Danichin. Celui-ci, réputé proche de l'opposition, avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités ukrainiennes. Celles-ci l'accusent d'avoir acheté certaines marchandises avec des fonds publics. À l'époque, ces mêmes autorités avaient jugé incompréhensible le choix de Prague d'accueillir l'ex-ministre de l'économie ukrainien. Pour autant, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien a déclaré que le cas Danilichin n'avait jamais influencé les positions ukrainiennes vis-à-vis de Prague. Il argue de surcroît qu'il ne s'agit en aucun cas d'une affaire politique, mais bien d'une question de défense nationale, les deux diplomates tchèques ne s'occupant pas de diplomatie, mais d'affaires militaires. Ce n'est pas ce que pense Karel Schwarzenberg, le chef de la diplomatie tchèque, qui estime que les deux affaires sont liées. Selon lui, ce qui est le plus évident dans cette affaire, c'est que nous n'avons jusqu'à présent expulsé personne, mais qu'au contraire, nous avons accueilli l'un de leurs ressortissants. Fin de citation. Les deux parties espèrent cependant que les relations tchéco-ukrainiennes ne seront pas entachées par de tels incidents à l'avenir.
Václav Richer Blue Boy, tel est le titre d'une exposition de photographie inédite de Václav Richer, un jeune homme de talent qui s'est suicidé le 31 décembre 1994 à l'âge de 28 ans. Comme l'indique le titre d'un de ses livres publiés à titre posthume, la vie a été pour lui une mauvaise compagne. Né d'une mère artiste plasticienne, cultivée et attentive, Václav Richer a probablement hérité de son père slovaque une maladie psychique. Souffrant de dépression et de schizophrénie, il a dû abandonner ses études à l'école polygraphique de Prague. Dès 1985, le jeune homme, alors âgé de 19 ans, suit un traitement à l'hôpital psychiatrique de Prague-Bohnice au pavillon numéro 13. Dans le cadre de sa thérapie, il écrit des poèmes, des textes autobiographiques et dessine. Il écrit et illustre un livre intitulé « Pavillon 13 », un récit cru et sincère dans lequel il évoque la vie et le traitement à Bohnice.
« Si j'écris, c'est parce que c'est un besoin vital »,
explique-t-il dans une lettre adressée à un ami.
À travers le livre « Pavillon 13 », je voudrais dire aux gens combien un traitement psychiatrique peut être insupportable. Beaucoup de choses sont cachées au public.
Pavillon 13, un recueil de poèmes intitulé « La vie est une mauvaise compagne » sont parus une dizaine d'années après la mort de Václav Richer en 2003 et en 2004 aux éditions Petrov. Ils ont enthousiasmé la critique et éveillé la curiosité pour cet auteur. À la même période, l'historien de l'art Jiří Pátek a découvert les photographies des Roms que Václav Richer avait prises comme jeune photographe amateur entre 15 et 17 ans. Ces photos en noir et blanc qui mettent en scène des enfants roms, notamment des enfants des rues, sont au cœur de l'exposition Václav Richer Blue Boy qui se tient jusqu'au 29 mai à la galerie Morave de Brno. Jiří Pátek.
Dans les années 80, lorsque ces photos de Rome ont été prises, il n'était pas courant de s'intéresser en profondeur à cette problématique. Václav Richer a eu une approche presque sociologique. Il est évident qu'il est allé dans les localités en question à plusieurs reprises, qu'il connaissait bien les gens photographiés car ils se sont ouverts à lui. Ils l'ont laissé pénétrer dans leur zone privée. À l'époque, il était adolescent, mais il avait ce même regard sensible que l'on retrouve chez les photographes renommés qui s'intéressaient eux aussi à l'homme, comme Jindřich Streit ou Viktor Kolář.
Podobně jak se jímavý pohled na svět jako tito autoři.
Outre une quarantaine d'images, l'exposition présente aussi de courts enregistrements vidéo réalisés par Václav Ritschl, ainsi que ses textes tapés à la machine et accrochés au mur avec de simples punaises, tels des messages laissés par l'auteur au public. Ces photos représentent non seulement les Roms, mais aussi des jeunes désabusés dans des bistrots, des images de la vie quotidienne. Jiří Pátek.
Il s'intéressait, comme d'autres photographes orientés à l'époque vers la photographie documentaire, aux événements de masse organisés sous le socialisme. Il a photographié certaines festivités, par exemple une fête organisée par le journal Rudé Pravo. Il est clair que cet enthousiasme collectif qui nous était imposé sous l'ancien régime ne convenait absolument pas à Václav Ritschl. Et le fait de photographier a été sa manière d'y faire face.
Plutôt que de décortiquer l'œuvre de Václav Ritschl, de l'interpréter à la manière des historiens de l'art, Jiří Pátek présente ses travaux avec humilité et discrétion, travaux qui sont d'après lui un témoin silencieux du combat entre le talent et l'âme souffrante et qui expriment une expérience impartageable. Václav Ritschl Blue Boy étant un terme utilisé par Václav Ritschl lui-même pour désigner les patients psychiatriques qui gardent l'espoir de guérir. Cette exposition est à découvrir jusqu'au 29 mai dans les locaux du Musée des Arts et des Métiers de Berlin. Un des textes de Václav Ritschl présenté au public caractérise particulièrement bien ce que représentait la création artistique pour ce jeune Tchèque dont le destin rappelle celui de Sarah Kane.
Je ne suis pas sûr de ce qui est la vérité, de la perception juste de la réalité. C'est probablement lorsque trois personnes se mettent d'accord que le fruit posé sur la table est une orange, celui qui dira que c'est une banane sera anormal, il sera tapé, ligoté, il criera d'horreur parce qu'il a enfreint l'ordre de la normalité. Heureusement qu'il existe la poésie, ce serait insupportable une vie où il n'y aurait que des oranges.
Dans la rubrique sportive, il sera d'abord question de hockey sur glace. Bien plus que les difficultés de la coalition gouvernementale, ce sont en effet les performances de l'équipe nationale tchèque au championnat du monde qui étaient au centre des préoccupations du public en fin de semaine dernière. Mais battus en demi-finale par la Suède, les Tchèques n'ont pas conservé leur titre de champion du monde et ont dû se contenter d'une médaille de bronze. Retour sur cette fin de mondial avec Guillaume Narguet, mais une petite place sera aussi réservée au football. À deux journées de la fin du championnat, le Viktoria Plzeň est plus proche que jamais du premier titre de champion de République tchèque de son histoire.
Sport en République tchèque.
Depuis dimanche soir et la victoire 6-1 de la Finlande aux dépens de la Suède en finale à Bratislava, la République tchèque n'est donc plus championne du monde de hockey sur glace. Les Tchèques ont abandonné leur titre vendredi en demi-finale après avoir été battus par la Suède 5-2. Dimanche, dans le match pour la troisième place, les joueurs d'Alois Adamczyk se sont toutefois partiellement consolés en battant la Russie 7-4 pour la deuxième fois depuis le début du mondial, décrochant ainsi la médaille de bronze. Avec 8 victoires en 9 matchs et une qualité de jeu qui a souvent fait rugir de plaisir leurs supporters, les Tchèques, qui possédaient en Slovaquie assurément une de leurs meilleures équipes de ces dernières années, présentent paradoxalement un bilan final bien plus positif qu'à l'issue du tournoi en Allemagne l'année dernière, à l'issue duquel ils avaient pourtant été sacrés champions du monde à la surprise générale. Mais alors qu'ils pouvaient légitimement espérer conserver leur titre, les partenaires de Jaromír Jágr, élu à 39 ans meilleur attaquant de ce mondial, se sont logiquement inclinés contre la Suède après une demi-finale au cours de laquelle ils pensaient pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant la marque. Mais menés 2-1 à la fin du deuxième tiers-temps, les Tchèques ont laissé trop d'espace aux attaquants scandinaves dans les 20 dernières minutes pour espérer recoller au score, comme le regrettait l'attaquant Patrick Eliáš, auteur malheureux des deux buts de son équipe.
My jsme si řekli v kabině, že pořád chceme hrát ze zajištěný obrany. Vím, že prostě jsme prohrávali 2-1, ale bylo spoustu času na to ten gol dát.
Dans le vestiaire, on s'est dit qu'on allait continuer à jouer en ne prenant pas de risques et en ne nous découvrant pas trop en défense. Nous étions certes menés 2-1, mais nous avions encore beaucoup de temps devant nous pour égaliser. Et nous avons d'ailleurs eu quelques occasions de le faire, mais les Suédois ont une équipe jeune, avec des joueurs très rapides qui n'attendaient que ça, que nous leur laissions des espaces pour pouvoir procéder par contre-attaque. Nous avons manqué de patience, nous avons voulu marquer trop rapidement,
et les Suédois ont parfaitement profité de nos largesses.
Assommés et très déçus après cette large défaite de 3-0 contre la Suède, les Tchèques ont cependant trouvé les ressources morales et physiques nécessaires pour se ressaisir et battre la Russie dans le match pour la 3e place. Au terme d'un match foufou et riche en buts, ils se sont imposés 7-4 grâce entre autres à un triplé de leur attaquant Roman Chervenka.
Les Russes pratiquent un hockey très offensif et si vous voulez avoir une chance contre eux, il ne faut pas leur laisser trop de liberté et d'espace. Ils ont des joueurs très talentueux qui savent en profiter. Après le premier tiers-temps, alors que nous étions menés 3-2, nous nous sommes dit qu'il fallait changer notre façon de jouer et nous avons mieux défendu pour empêcher les Russes de s'installer dans notre zone défensive. Cela nous a permis d'avoir des opportunités en contre-attaque qui nous ont permis de marquer à plusieurs reprises.
Au bout du compte, les Tchèques étaient tous très heureux d'avoir au moins la médaille de bronze autour du cou, une 3e place qui était même mieux qu'un lot de consolation selon l'entraîneur Alois Adamczyk.
Je pense que par rapport à ce que nous avons montré tout au long du tournoi, cette médaille constitue d'abord un soulagement. Perdre contre la Russie et terminer au pied du podium aurait été une très grande déception. Je pense que les joueurs ne méritaient pas ça, car ils ont très bien joué dès le premier match. Et puis cette médaille de bronze, qui fait suite au titre de l'année dernière, constitue une très belle carte de visite pour le hockey tchèque.
Par ailleurs, au-delà de cette médaille de bronze au petit goût d'or, deux joueurs tchèques, l'attaquant Jaromír Jágr et le défenseur Marek Židlický, figurent dans l'équipe All-Star, désignée à l'issue du championnat du monde. La République tchèque n'a donc pas gagné, comme l'espérait tout un pays, mais elle a donc beaucoup séduit en Slovaquie, et le dire est assurément bien plus qu'une façon de se consoler. On passe au football. La 28e journée de la Gambrinus Liga, le championnat de République tchèque de première division, a été disputée ce week-end. À 2 journées de la fin, le Viktoria Plzeň est pratiquement assuré de remporter le premier titre de champion de son histoire et de succéder ainsi au Sparta de Prague au palmarès. Surprise de cette saison 2010-2011, l'équipe de Bohème de l'Ouest possède en effet toujours 4 points d'avance sur le Sparta de Prague. Vainqueur 1-0 sur la pelouse de Teplice samedi après-midi, Plzeň a parfaitement répondu à la victoire 2-0 décrochée la veille par le Sparta aux dépens des Bohemians dans le petit derby pragois. Auteur du but de la victoire, le milieu de terrain de Plzeň, Daniel Kolarge, avait donc toutes les raisons d'être satisfait à la sortie du terrain.
Je pense que nous gérons plutôt bien la pression. C'est quelque chose de nouveau pour Plzeň. Pas seulement pour nous joueurs, mais aussi pour l'ensemble du club. Même si nous continuons à travailler à 100% comme nous l'avons fait jusqu'à présent, je crois que nous devrions remporter le titre.
Pour être assuré de ne plus être rattrapé par le Sparta de Prague et de remporter ce titre de champion, le Viktoria Plzeň doit donc encore gagner au moins une fois lors des 2 dernières journées ou réaliser 2 matchs nuls, une tâche largement dans ses cordes même si le défenseur David Limberski préfère rester prudent.
Nous avons fait un pas de plus et nous nous sommes rapprochés encore un peu plus du titre, mais l'essentiel pour le moment reste de bien se préparer pour la réception d'Ostrava. C'est pas encore le moment de fêter quoi que ce soit. Pour cela, nous avons encore besoin de gagner contre Ostrava. Il y a 3 ans de cela, quand je jouais encore au Sparta, nous possédions 4 points d'avance sur le Slavia à 3 journées de la fin. Et nous avions finalement fini 2e. Tout est donc encore possible, même si c'est vrai que cela ne dépend plus que de nous.
L'année de son centenaire, le Viktoria Plzeň, déjà vainqueur de la Coupe de République tchèque la saison dernière, s'apprête donc à fêter le plus grand succès de son histoire. Et l'entraîneur Pavel Vrba entend bien célébrer cela en grande pompe dès samedi prochain à domicile.
Je souhaite vraiment que l'on prenne les 3 points dès le premier match contre Ostrava. Nous allons jouer à domicile, le stade sera plein. Il y aura certainement une ambiance formidable et fêter le titre avec notre public serait une récompense pour nous comme pour les supporters qui sont revenus en nombre cette année au stade. Quand je suis arrivé à Plzeň en 2008, le club avait à certains matchs des affluences de 1500, 2000 spectateurs. Aujourd'hui, nous en sommes à 7000 de moyenne et gagner la semaine prochaine serait une manière de remercier nos supporters.
Já bych byl rád samozřejmě, abychom se těm věrným fanouškům odměnili tím, abychom už slavili doma.
Et puis derrière le Victoria Plzeň, le Sparta est déjà assuré de terminer au pire à la deuxième place, un classement qui ne permettra cependant pas au prestigieux club pragois de disputer les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Enfin, la troisième place, elle aussi qualificative pour la Ligue Europa, reviendra à Jablonec, tandis que la finale de la Coupe de République Tchèque, qui délivrera le dernier ticket européen, mettra aux prises le Mladá Boleslav du français Noël Alexandre Mendy au Sigma Olomouc.
C'est la fin du programme de Radio Prague en langue française. Magdalena Hrozinková vous remercie de votre attention.